L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sourdril.
Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Personnellement, j'aime la crainte de Dieu. Et avec notre invité aujourd'hui, on va avoir l'occasion de vous parler de cette facette de l'esprit de Dieu, la connaissance, mais également la crainte de l'Éternel. Pasteur Grégory, on est encore heureux aujourd'hui de t'avoir parmi nous.
Merci Jérémy.
C'est notre dernière journée.
Dernière journée, merci. J'ai beaucoup aimé donc, le temps qu'on a passé durant donc, la semaine à prier ensemble et à consulter la parole de Dieu. Merci.
Amen. Merci, merci. Et aujourd'hui, je vais vous partager un témoignage d'un frère africain qui vit en Algérie. Il dit qu'il a connu il est né dans une famille non chrétienne et qu'il a connu le Seigneur quand il était enfant. Il dit, mais dans sa vie chrétienne, une porte a été ouverte largement au diable. Il dit, je suis tombé dans les péchés profonds. Je regardais sans cesse la pornographie, avec tout ce qui allait avec, je vous épargne les détails. Je désirais beaucoup plus de choses au niveau des ténèbres. Je pensais sans cesse à rencontrer le diable et lui offrir tout ce qu'il me demanderait. Je respecterais à la lettre, sauf s'il me demandait un sacrifice humain. Bon, c'était vraiment très, très profond. J'étais prêt à tout, presque, mais même si je n'ai jamais pu le rencontrer physiquement, mon cœur l'avait déjà fait. Or, pendant ce temps, il y avait deux voix en moi qui discutaient sans cesse entre elles. L'une me recommandait souvent d'aller prendre la Bible et de la méditer, de faire un programme de prière, et l'autre me disait de faire tout le contraire. J'étais complètement perdu et égaré. Mon âme était au milieu entre Dieu et le diable. Puis ma chair et mon esprit se tiraillaient entre eux. Cher bien-aimé, c'était vraiment l'enfer que je vivais. Puis il est tombé sur une prédication sur YouTube du pasteur Marcelo Tunassé qui parlait de l'impudicité. Puis il est tombé sur le site enseignement.com. Il a téléchargé la Bible en audio. Puis il a commencé à écouter des prédications sur Enseigne-moi. Il a téléchargé l'application EMCI. Il dit, mais à un moment, j'ai tout abandonné. J'avais la paresse d'écouter les messages, de retourner sur l'application. C'est tout ça, le diable qui mélangeait mes pensées. Je recevais souvent les émissions « Bonjour chez vous », mais j'ignorais complètement. Je les ignorais complètement. Puis un temps, la voix me parlait, me disait d'écouter des prédications, des émissions. Et je commençais à écouter jusqu'au point où je me suis rendu compte de mes actes et de mes péchés. Alors j'ai pris une résolution quand je me suis confessé. J'ai avoué tous mes péchés à Dieu. Et c'est alors que j'ai commencé à écouter l'émission « Prière inspirée ». C'est là que j'ai reçu complètement la transformation, la vraie transformation par le Saint-Esprit. Je ressentais l'absence de la prière, la soif divine de la parole. Avant, je priais 10 minutes. Pour moi, c'était déjà un miracle de prier 10 minutes. Mais aujourd'hui, je suis restauré, j'ai retrouvé le vrai chemin et la vie chrétienne en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Je prie en langue aujourd'hui tellement que les mots me manquent. Prier pour moi 40-50 minutes, c'est vraiment devenu très peu pour moi. Et je ne passe plus une journée sans écouter la parole de Dieu. J'ai tellement soif de sa parole. Cela fait presque un mois déjà que je ne regarde plus la pornographie, la masturbation, tout ça. Je suis déterminé à combattre l'ennemi jusqu'au dernier de mon souffle et je m'engage à faire la volonté de mon Dieu en Jésus-Christ, déterminé à le servir et non me servir de lui. Vos prières ont restauré une âme qui était perdue. Merci beaucoup, pasteur, que Dieu vous édifie et qu'il vous accorde son énergie à le servir abondamment et à nous enseigner à jamais. Gloire à Jésus-Christ pour de tels témoignages et des vies transformées. On ne peut être que reconnaissant à Dieu hein, de ce qu'il manifeste à travers son esprit et à travers des hommes tels que nous, de pouvoir nous utiliser pour proclamer sa parole, pour prier pour vous. C'est une grâce de Dieu. Et on est vraiment reconnaissant pour les fruits qui sont portés à travers le ministère Enseigne-moi. Que Dieu soit glorifié. Merci d'ailleurs à tous nos partenaires, à tous ceux qui prient pour nous, à tous ceux qui ont un cœur pour la vision EMCI. On veut vous bénir parce que grâce à votre cœur et grâce à votre semence, ce sont des gens tels que ce frère qui sont délivrés, qui sont sauvés et qui sont libérés de la puissance de l'ennemi. Alors merci de la part du Seigneur et de la part aussi de l'équipe d'Enseigne-moi. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, pasteur, on veut partager ensemble sur ce thème. Ouais. Et plus qu'un thème, c'est une personne et il est Dieu lui-même.
Amen.
Et sur ses facettes de son esprit. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel.
Ouais. Donc, esprit de connaissance, donc, nous terminons avec les sept esprits. Donc, nous avions dit La méditation de la semaine, c'était basé sur Ésaïe chapitre 11, là où il est dit « Puis Rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, cette manifestation de l'Esprit de Dieu, ce ne sont pas sept différents esprits, mais ce sont les manifestations des sept esprits de Dieu, cette facette, cette opération, cette manifestation du Saint-Esprit. Nous avons déjà vu que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de la Seigneurie, c'est l'Esprit de la domination, c'est ce qui restaure l'autorité dans notre vie, la domination dans notre vie. Nous avons vu également l'Esprit de sagesse et d'intelligence. La sagesse nous dit qu'est-ce qu'il faut faire et l'intelligence nous dit pourquoi est-ce que nous le faisons, très important, parce que, donc, comme nous avions dit, l'Esprit d'intelligence te révèle le pourquoi des choses, mais l'intelligence dont il est question ici, ce n'est pas l'intelligence naturelle, c'est-à-dire la compréhension naturelle des choses, mais c'est ce qu'on reçoit par révélation de la part de Dieu. C'est ce qui constitue l'intelligence spirituelle. Nous avions parlé de l'esprit également de conseil et de force. Et ces deux vont de pair, comme j'ai dit, nous voyons ici, il y a trois couples d'esprits. Le Seigneur les a mis en couple parce qu'ils marchent ensemble. L'esprit de sagesse marche avec l'esprit d'intelligence et l'esprit de conseil marche avec l'esprit de force. Nous avions dit que quand nous suivons, l'esprit de conseil nous révèle les stratégies de Dieu. La sagesse nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. L'intelligence nous dit pourquoi est-ce que nous le faisons. L'esprit de conseil nous dit comment exécuter les plans de Dieu. Donc, ce que Dieu nous a demandé de faire, comment le faire exactement. L'apôtre Paul dit dans Galates 3, donc, êtes-vous dépourvu de sens pour commencer dans l'esprit et finir par la chair. Donc, parfois, nous avons tendance, aussitôt que nous ayons reçu une révélation de la part de Dieu, le Seigneur nous dit de faire quelque chose et parfois nous avons cette tendance de partir avec et d'exécuter selon nos conceptions, nos opinions des choses, notre perception de la situation. Donc c'est très intéressant, c'est très important d'attendre Dieu pour qu'il nous livre la stratégie de la bataille. Donc, très, très important. Donc, l'esprit de conseil et de force. Quand nous suivons les directives de Dieu, les stratégies de Dieu, maintenant, la force de Dieu se manifeste. On arrive maintenant à l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça, c'est peut-être, si j'avais un couple favori, ce serait mon couple favori, couple d'esprit favori, l'esprit de connaissance de l'Éternel. Parce que ça, c'est profond, la connaissance de l'Éternel. Tout d'abord, parlons de qu'est-ce que ça veut dire. Tout d'abord, notons que le texte dit, il y a l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, et il dit esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, ici, ce n'est pas remarqué que le terme connaissance et crainte, dans ce couple d'esprits, est modifié par donc le complément de l'Éternel. Donc c'est pas juste la connaissance, hein. Donc c'est pas juste l'esprit de connaissance. C'est l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est l'esprit de la connaissance de l'Éternel et la crainte de l'Éternel. C'est pas juste la connaissance. Donc l'expression l'Éternel modifie les deux, la crainte et la connaissance. Donc ici c'est pas surtout l'esprit de connaissance, mais c'est l'esprit de la connaissance de l'Éternel. Maintenant, quand on parle de la connaissance de l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Maintenant, pour nous aujourd'hui dans la culture occidentale, connaître quelque chose, c'est avoir une perception claire de la chose, ou encore c'est être conscient de son existence. Donc on dit qu'on connaît quelque chose du fait qu'on est conscient de son existence. Mais ce n'est pas exactement la conception biblique du terme « connaître ». Dans la Bible, le terme connaître, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus ample, beaucoup plus profond. Dans le concept biblique, connaître quelque chose, c'est l'expérimenter. Donc, tu ne connais pas quelque chose tant que tu ne l'as pas expérimenté. C'est dans ce sens-là, par exemple, donc le mot « connaître » est utilisé dans le sens de « relation sexuelle ». Donc, on parle de quelque chose de très tangible, de très palpable. Donc, quand on parle de « connaître Dieu », c'est pas juste connaître, savoir que Dieu existe, c'est vivre Dieu. C'est expérimenter Dieu, c'est marcher avec Dieu, c'est savoir entendre la voix de Dieu, c'est savoir reconnaître la présence de Dieu. Donc connaître l'esprit de la connaissance de l'Éternel, en d'autres termes, l'esprit de la connaissance de l'Éternel, c'est cette opération de l'esprit qui rend Dieu réel dans ta vie. Quand tu as l'esprit de l'Éternel, Dieu, avec l'esprit de l'Éternel, Dieu n'est plus un concept. Ce n'est pas quelqu'un dont, au sujet duquel tu lis dans la Bible, mais tu sais pas, tu connais pas, il est loin, il est séparé, il est détaché de ta vie, c'est peut-être un concept philosophique. Non, quand tu reçois l'esprit, quand l'esprit de la connaissance de l'Éternel se manifeste dans ta vie, l'esprit de la connaissance de l'Éternel rend Dieu réel dans ta vie. Ça, c'est l'esprit de la connaissance. Maintenant, comment est-ce que l'esprit de la connaissance de l'Éternel se déploie-t-il dans notre vie? Cet esprit qui nous permet de vivre Dieu, d'interagir avec Dieu, de communiquer avec Dieu, de parler avec Dieu, l'esprit de l'Éternel, de la connaissance de l'Éternel se déploie par la communion avec Dieu. L'apôtre Paul dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Donc, je crois que je t'avais entendu dire dans l'une des émissions que quelqu'un a dit qu'il ne faut pas parler au Saint-Esprit. Voilà. Mais la Bible parle de communion. On ne peut pas communier avec quelqu'un sans lui parler. Communion signifie communication intime. Communion signifie parler cœur à cœur. Donc, quand la Bible parle de la communion du Saint-Esprit, cela veut dire qu'il faut avoir une communication intime avec le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, c'est cette pratique-là donc, qui développe l'esprit de la connaissance. L'esprit de la connaissance de l'Éternel se développe à travers la communion. Maintenant, laisse-moi parler un petit peu de ça. Il y a, pour que Dieu soit réel dans votre vie, il y a un principe biblique dans le livre de Jacques, chapitre 4. L'Éternel dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, il y a un principe biblique dans la connaissance de l'Éternel. Si vous voulez connaître l'Éternel, l'Éternel te donne la responsabilité toi-même de t'approcher de lui. Donc, parfois, j'écoute des gens qui disent, « Ah, Dieu est tellement loin. » Je me sens détaché de Dieu, j'ai perdu mon premier amour, donc je ne sais quoi faire. En réalité, si tu sens que tu as perdu ton premier amour ou tu es détaché de Dieu, ce n'est pas difficile. Hein? Donc la Bible dit, approche-toi de Dieu et lui, il s'approchera de vous. Donc Dieu vous donne la responsabilité, il te donne la responsabilité à toi de t'approcher de lui. Quand dans la lettre, c'est à l'église d'Éphèse, je crois, où il a dit « tu as perdu ton premier amour », mais il a dit « c'est très simple, si tu as perdu ton premier amour, c'est très simple, fais les premières œuvres ». Donc pour retrouver ton premier amour, il n'y a pas quelque chose de surnaturel qui va se passer pour retrouver ton premier amour, l'Éternel. Dieu a dit « tu as perdu ton premier amour », donc il dit « fais tes premières œuvres ». Ah, donc, quand tu étais jeune dans la foi, tu te réveillais tôt le matin, tu passais du temps dans la présence de Dieu, tu passais beaucoup de temps en adoration, tu lisais ta Bible et tu ressentais cet amour. Tu avais cette chaleur pour Dieu, cet amour pour Dieu. Donc, Dieu a dit, si tu veux retourner dans cet amour, c'est très simple. Tu fais tes premières œuvres et tu vas revivre l'amour que tu as fait pour moi. Donc, l'esprit de la connaissance de l'Éternel, c'est cette grâce qui nous fait marcher en communion avec Dieu. Maintenant, la communion, le secret de la communion avec Dieu, c'est au fur et à mesure que tu traites le Saint-Esprit de Dieu comme une personne, lui, il va se révéler comme une personne à toi. Donc, il y a des gens, par exemple, qui traitent, ou même beaucoup de chrétiens, traitent le Saint-Esprit de Dieu quasiment comme une chose. Je peux avoir, par exemple, une table comme ça à la maison. Je sais que la table est là, je sais que la table est utile, mais je ne lui parle pas. Donc, quand je me lève le matin, j'ai une table à la maison. Quand je me lève le matin, je ne dis pas bonjour à ma table. Je sais que la table est là, mais je ne communique pas avec ma table. Donc, je traite la table comme une chose. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui traitent le Saint-Esprit de Dieu comme une chose, comme un canapé, comme une table, comme une chaise. Ils savent que le Saint-Esprit de Dieu est dans leur vie, mais ils ne lui parlent jamais. Ils ne lui demandent jamais son opinion sur les décisions qu'ils prennent dans leur vie. Donc, mais le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une chose. Et quand, si tu traites le Saint-Esprit de Dieu comme une chose, le Saint-Esprit de Dieu, lui, il va garder le silence. Donc, en quelque chose, vous allez avoir cette réaction parce que vous vous approchez de Dieu et lui, il vous approchera de vous. Si vous aimeriez que le Saint-Esprit de Dieu soit réel dans votre vie, vous aimeriez que Dieu vous parle. Vous commencez vous-même à vous approcher de Dieu, à lui parler. Et j'ai dit une chose, que la communion est plus forte que la prière, parce que partager est plus profond que demander. La prière, parfois, c'est une transaction formelle. Seigneur, j'ai ce problème, j'ai ce besoin, au nom de Jésus. C'est quelqu'un qui se présente à un magasin, j'ai besoin d'acheter ci et d'acheter ça. Je viens avec la foi, il y a une transaction qui se fait. C'est un peu la prière. Mais la communion, c'est cultiver l'amitié. C'est pas une demande, c'est juste partager ton cœur avec Dieu. Au fait, j'ai dit que le secret de la communion avec Dieu, ou encore de la connaissance de l'Éternel, c'est l'informalité. L'informalité. Les personnes les plus proches de nous sont les personnes avec qui nous partageons des choses légères, apparemment légères, des choses informelles. Donc, par exemple, si je vais... quelqu'un qui va se marier, par exemple, il va appeler ses amis, même les amis un peu distants, et va lui dire que « Ah, je vais me marier. » Parce que c'est une décision importante. Mais par contre, ce sont les personnes qui sont vraiment proches de lui, comme sa femme, ses frères, sa sœur, qui va dire « Que penses-tu de cette veste? Que penses-tu de ma chemise? Que penses-tu ?» Les décisions les moins importantes sont généralement réservées aux personnes les plus proches. Et si nous aimerions vivre dans la connaissance de l'Éternel, la communion avec Dieu, cela veut dire nous aurons besoin d'entrer Dieu dans même les détails qui nous paraissent insignifiantes. Seigneur, je vais acheter cette robe. Que penses-tu? Aimes-tu cette robe, Seigneur? Ça, c'est une autre dimension d'expérience avec Dieu. C'est une autre dimension de vie avec Dieu. Seigneur, je vais cuisiner pour mon mari aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois lui préparer? Donc, tu rentres Dieu dans les décisions, même les plus simples. Et au fur et à mesure où tu le fais, cela veut dire que tu traites le Saint-Esprit de Dieu vraiment comme une personne. Et au fur et à mesure que toi, tu le fais, ce qui va arriver, c'est que soudainement, un jour, tu vas être à la maison et tu vas entendre sa voix. Lui, il va commencer à te parler. Donc, le fait que lui, tu le traites comme une personne, il réagit comme une personne de ta vie. Donc, parfois, le Saint-Esprit de Dieu est silencieux dans la vie de certaines personnes. C'est parce qu'il traite le Saint-Esprit de Dieu comme une chose. Donc, si tu traites le Saint-Esprit de Dieu comme une chose, il va être silencieux. Maintenant, pour finir, la connaissance de l'Éternel, qu'est-ce qu'elle entraîne? La connaissance de l'Éternel entraîne la crainte de l'Éternel. Parce que quand tu vis de la conscience de Dieu, Dieu est là, je lui parle. J'entends sa voix, je lui demande son opinion par rapport aux décisions que je prends, etc. Soudainement, cette présence apporte une crainte surnaturelle. Ce n'est pas une crainte servile, ce n'est pas... au fait, la crainte de Dieu, c'est la vie d'obéissance que nous menons par amour pour lui. C'est juste ça. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance que nous manifestons envers Dieu par amour pour lui. Donc, quand je deviens conscient de la présence de Dieu, Jacob a dit, donc dans Genèse 28, « L'Éternel est ici et je ne le savais pas. » Et la Bible dit au même instant, la crainte de l'Éternel s'empara de lui. Parce qu'il était conscient de la présence de Dieu a amené la crainte de Dieu. parfois, nous faisons des choses, nous disons des choses que nous ne devrions pas dire, nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire, parce que pour un moment, nous avions oublié que Dieu était là. Donc, nous avions oublié que la présence de Dieu est là. Il est là, il écoute, il entend. Et Paul disait à Timothée, « Timothée, souviens-toi de Jésus. » Ce passage me frappe toujours, parce que Timothée était pasteur. Il était pasteur à Éphèse. Mais il écrit un pasteur et il dit au pasteur, « Souviens-toi de Jésus. » Cela veut dire que même ce qu'on appelle les hommes professionnels, les pasteurs professionnels, on peut être dans le ministère et oublier Jésus. « Souviens-toi de Jésus. » Donc, quand nous nous souvenons que Dieu est avec nous, sa présence est autour de nous, donc maintenant, la crainte de l'Éternel, nous avons cette motivation de vivre dans l'obéissance car il est là parmi nous. Donc, je vous encourage à vivre et marcher dans cette crainte de l'Éternel.
Amen. Je crois que si... Merci, hein, pasteur. Hein. Je crois que si vous cherchez Dieu, il va se révéler. Et pendant que tu partageais au départ sur connaître Dieu, j'ai senti qu'il y a un musulman ou un groupe de musulmans qui regardent cette vidéo et vous avez été interpellé parce que vous cherchez Dieu et une communion avec Dieu. Et Dieu veut vous sauver, transformer votre vie. Et tout à l'heure, on a partagé un passage de Jacques à propos justement « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Et Jacques dira également « Nettoyez vos mains, nettoyez vos cœurs, vous qui êtes partagés ». Ouais. Et aujourd'hui, et tu as terminé sur ça, et c'est bien, souviens-toi de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ et seul Jésus a payé pour vos péchés. Ouais. Aujourd'hui, il est important pour toi, pour vous, qui êtes musulmans, de recevoir Jésus-Christ, de reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Il est le Messie promis. Il est celui que Dieu a envoyé pour pardonner vos péchés. Et maintenant, vous pouvez réfléchir avec votre tête et entrer dans un raisonnement qui ne vous changera jamais. Peut-être vous avez raisonné pendant très longtemps jusqu'ici, mais aujourd'hui, ce n'est pas question de raisonner, c'est question d'ouvrir votre cœur à la vérité de Dieu, parce que Dieu ne se raisonne pas.
Ouais, amen.
Dieu s'accepte, il se reçoit. On reconnaît Dieu, la présence de Dieu. Et je voudrais aujourd'hui vous encourager à vous approcher de Dieu. Et à dire après ces paroles que vous avez entendues, qui ont suscité une soif et qui ont augmenté votre soif de connaître véritablement Dieu, de dire à ce Dieu, « Dieu, je te demande pardon de ne pas avoir reconnu Jésus-Christ dans ma vie. Je te demande pardon d'avoir ignoré Jésus-Christ. Aujourd'hui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et je te demande, Dieu, d'ouvrir mes yeux pour connaître Jésus-Christ. » Pour te connaître, ô Dieu, ouvre mes yeux et pardonne mon péché d'avoir vécu une vie religieuse loin de toi. Je te donne toute ma vie, tout ce que je suis. Je ne veux plus te donner une partie seulement, mais te donner le contrôle de toute ma vie. Je crois que Christ est ressuscité d'entre les morts pour me donner une vie nouvelle. Je te reçois.
Il y a quelqu'un, un monsieur qui est en train de regarder, qui est avocat. Donc, vous êtes avocat, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Vous êtes très, très intelligent et vous avez posé beaucoup de questions. Mais comme Jérémie a dit, Dieu ne se raisonne pas, Dieu s'accepte. Donc, là où vous êtes maintenant, vous pouvez accepter Jésus-Christ. Vous pouvez connaître Jésus-Christ. La connaissance de l'Éternel peut vous envahir, mais ça ne passe pas par l'intellect. Ça vient directement au cœur. On expérimente Dieu. On marche avec Dieu. On vit avec Dieu. Donc, on ne raisonne pas Dieu. Donc, là où vous êtes, Seigneur, je te remercie au nom de Jésus. Merci pour cet homme que tu es en train de toucher maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour l'esprit de conviction qui tombe sur lui maintenant au nom de Jésus. Merci pour la grâce qu'il reçoit maintenant au nom de Jésus. Seigneur, aide-lui à marcher dans la crainte de Dieu au nom de Jésus. Accorde-lui, Seigneur, cette présence qui nous convainc, cette présence qui nous conduit, cette présence qui nous révèle ta volonté au nom de Jésus.
Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est véritablement une nourriture. Aujourd'hui, tu nous as nourris encore. Toute cette semaine, tu es venu nous nourrir spirituellement, Et je suis reconnaissant, Père, alors que tu m'as accordé de diriger cette émission, reconnaissant pour la vie bénie de tous ceux qui ont écouté pendant cette semaine et qui ont reçu de ta part une nourriture. On veut te dire merci, parce que c'est une grâce. Alors que plusieurs croyants dans le monde sont obligés de se cacher pour prier, pour être enseignés, nous avons la grâce, nous, de pouvoir écouter ta parole avec une telle facilité. Merci de cette grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Merci parce que si on s'approche de toi, tu t'approches de nous. Assurément, tu es fidèle.
Oui.
Même si on est infidèle,
oui,
tu demeures fidèle parce que ta nature est parfaite. Tu es loyal. Tu es un Dieu saint et fidèle. Et je te remercie, Dieu, de ce que tu ouvres l'intelligence de ceux qui écoutent et de ce qu'à travers cette émission, à travers ce temps, tu sauves plusieurs personnes de la mort, Seigneur, de la perdition éternelle. Tu sauves plusieurs personnes des flammes de l'enfer et du jugement dernier en les pardonnant, en les guérissant, en les libérant du péché. Seigneur Jésus-Christ, merci d'avoir payé le prix qu'on ne pouvait pas payer nous-mêmes. Ta parole le déclare, tout homme a péché et est privé de la gloire de Dieu, mais il est gratuitement justifié par le sang de Jésus. Merci pour ton sang. Merci pour ta présence. Je prie qu'elle devienne de plus en plus réelle dans la vie de tous ceux qui écoutent, afin que la crainte de Dieu soit dans nos cœurs. Alléluia. T'aimons,
Seigneur. Seigneur, nous prions pour la plénitude du Saint-Esprit. Que les sept manifestations de l'Esprit, Seigneur, se fassent connaître dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Que la plénitude du Saint-Esprit dans ses sept facettes, dans ses sept manifestations, soit une réalité dans la vie de chaque personne qui nous regarde au nom de Jésus de Nazareth. Et par cet Esprit, Seigneur, par ton Esprit Saint, au nom de Jésus, que tu les élèves au nom de Jésus de Nazareth. Que tu les fasses grâce au nom de Jésus. Que tu manifestes ta personne à travers eux, au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles.
Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et encore merci, pasteur.
Merci, Jérémy.
Et que Dieu bénisse vraiment abondamment ton ministère.
Amen. Gloire à Dieu.
Le ministère de ta famille et Amen. Ta famille d'église aussi.
Amen.
Je vous encourage à réécouter ces émissions sur enseignemoi.com. Vous pouvez y aller ou alors sur le YouTube d'EMCI TV. Et on veut déclarer sur vous la bénédiction de Dieu. Marcher avec le Seigneur. Quand on marche avec lui, il marche avec nous. Je vous dis à très bientôt, frères et sœurs, dans Prière Inspirée.
Vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière et vos témoignages à prière@enseignemoi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Prière Inspirée sur emcitv.com.